J'aimerais juste nous rappeler, j'ai vu quelqu'un avec les rameaux ici aujourd'hui. Anessa, tu pitié à toi, Yulu. Quelqu'un venait avec les rameaux. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Ok, donc pour nous les chrétiens, bon, je pense que la plupart d'entre nous savons qu'aujourd'hui c'est le dimanche des rameaux. C'est un jour où, qui nous rappelle de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Le dimanche prochain, nous allons célébrer la résurrection de notre Seigneur et de notre Sauveur. Mais avant qu'il accouffe, il y a des choses qui se sont passées dans sa vie. Et ces jours nous rappellent, les temps que Jésus était en train d'aller à Jérusalem, où le peuple était en train de crier « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Ils étaient seulement en train de demander à Jésus de venir les sauver. Et aujourd'hui, j'aimerais encore une fois nous rappeler que Jésus n'était pas venu nous sauver des problèmes. Bon, pour les temps, Jésus n'était pas venu sauver les Israélites des Romains, mais Jésus était venu pour sauver son peuple de l'emprise du péché. Et c'est l'œuvre que Jésus continue à faire jusqu'à aujourd'hui. Quand nous sommes en train de célébrer ce jour, j'aimerais nous rappeler que Jésus est en train de vouloir sauver tout un chacun de nous de la force du péché. Amen, amen. C'est pour cela qu'il est mort, pour que nous soyons réconciliés à notre Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut encore une fois acclamer le Seigneur pour l'œuvre qu'il a fait à la croix et l'œuvre qu'il continue à faire chaque jour dans la vie de tout un chacun de nous? Et je vais inviter Papa Jérémy. Il va lui-même prier pour le message.
Voilà, merci beaucoup, Don. Est-ce qu'on peut s'élever pour la prière? Mais avant que l'on ait pris, je vais juste lire ces versets des Actes chapitre 1, le 8e verset. Actes chapitre 1, verset 8. La Bible nous dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Parole du Seigneur, prions. Dieu notre Père, nous humilions encore une fois devant toi cet après-midi parce que nous avons besoin que tu nous parles. Nous avons besoin, Seigneur, que tu puisses révéler encore une fois ta face à ton peuple ici présent, qu'à travers, Seigneur, ce moment que nous puissions encore une fois te connaître un peu plus, Seigneur, connaître la raison pour laquelle tu nous as appelés à toi et être encore une fois engoué, Seigneur, pour les choses que tu veux que nous puissions accomplir selon ta volonté. Père éternel, nous prions que ce moment soit un moment béni par toi et que les paroles, Seigneur, qui vont sortir de ma bouche, Seigneur, puissent être pour l'édification de ton peuple ici réuni. Merci, Seigneur, parce que tu vas nous guider, car c'est dans le nom précieux de Jésus que nous te prions. Amen. Voilà, nous pouvons nous mettre. Bonjour encore une fois. Comment vous allez? Waouh, moi je vais bien, j'espère que vous aussi, mais vous venez de le dire timidement. Comment vous allez? Nous allons bien, merci beaucoup. Voilà, nous voulons conclure aujourd'hui une série que nous avons commencée il y a quelques semaines avec les frères Joe, qui a fait un travail fantastique, qu'il a laissé Dieu l'utiliser puissamment afin qu'il puisse nous parler. Et je vais juste nous rappeler des trois derniers points qu'il a dit la semaine antérieure quand il était ici. Et il a parlé de pourquoi témoigner. C'était la question à laquelle il a répondu lors de son dernier message. Pourquoi témoigner? Il a dit, nous devons témoigner parce que Christ a eu pitié de nous, n'est-ce pas? Quelqu'un était là? Quand Joe a donné ce message, personne? Ok, voilà. Il a dit, nous devons témoigner parce que Christ a eu pitié de nous. Nous devons témoigner pour amener à la foi ceux qui ont le cœur incrédule. C'est ce qu'il a dit. Hein? Moi, je l'ai suivi sur Facebook parce que je n'étais pas là. Et il a aussi dit que nous devons témoigner pour manifester la puissance du royaume de Dieu ou la puissance de Dieu. Ça, ce sont les trois raisons que le frère Joe a données pour que nous puissions témoigner. Pourquoi nous devons témoigner? Ce sont les trois raisons qu'il a données. Je vais en ajouter une quatrième comme introduction à ce message. La quatrième raison que j'ajoute, c'est que nous devons témoigner parce que l'Évangile est une bonne nouvelle. Nous sommes porteurs d'une bonne nouvelle. Je ne sais pas si vous avez lu l'histoire, Mais on nous dit que en 490 avant Jésus-Christ, il y avait un roi des Perses qui s'appelait Darius Ier. Alors Darius Ier avait déjà, ça faisait déjà 120 ans que les Perses et les Mèdes dominaient sur le monde, le Moyen-Orient, le Proche-Orient. Ça faisait 120 ans. Et Darius Ier venait de se buter à une difficulté parce que les Grecs, ok, vous connaissez les Grecs? Ouais, les Grecs s'opposaient à lui. Ils étaient en train de se battre contre les Perses en 490 avant Jésus-Christ. Et il y avait une bataille particulière qui devait vraiment décider du sort du monde de cette époque-là. Qui devait décider de qui sera le vainqueur et quelle sera la puissance qui va dominer sur le monde à cette époque-là. C'était la bataille de Marathon. Et cette bataille-là, c'était une bataille qui devait vraiment décider du sort du monde à cette époque. Et on nous dit que ces jours-là, les Grecs se sont tellement battus qu'ils sont parvenus à vaincre les Perses. Et donc la domination des Perses et des Mèdes, qui avaient duré pendant 120 ans, s'était arrêtée à la bataille de Marathon. Mais vous savez maintenant que pour annoncer la victoire, à l'époque, ce n'était pas aussi facile que ça l'est aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on utilise nos téléphones, n'est-ce pas? Quand on veut annoncer une bonne nouvelle, on le fait en moins de deux secondes, n'est-ce pas? Il suffit seulement d'envoyer un message, on dit « nous avons gagné ». Avec toute la technologie qu'on a, avec nos téléphones, la télévision, c'est très facile d'annoncer des bonnes nouvelles. Mais à cette époque-là, à l'époque de la bataille de Marathon, ce n'était pas aussi facile. Et donc, à cette époque, ils avaient dans l'armée des personnes qu'on appelait des coureurs ou des éclaireurs. Et ces gens-là devaient parcourir des kilomètres pour aller annoncer à la capitale des Grecs qu'ils venaient de gagner la bataille de Marathon. Alors la légende dit qu'après que les Grecs aient gagné la bataille de Marathon, il y a eu un coureur en particulier qui a couru jusqu'à la ville d'Athènes pour annoncer que les Grecs avaient gagné. On nous dit qu'il avait tellement couru. Quand il arrivait comme ça aux portes d'Athènes où il y avait des éclaireurs, parce que ces éclaireurs aussi attendaient avec impatience la nouvelle du champ de bataille. Quand ils l'ont vu comme ça, il arrivait, il court, il est en train de fournir les derniers efforts. On nous dit qu'il a seulement annoncé « Nous avons gagné » et il est mort. Mais ce qui l'a amené à courir jusqu'à mourir, c'était parce qu'il était porteur d'une bonne nouvelle. Il était porteur d'une bonne nouvelle. Et l'évangile est une bonne nouvelle. C'est la meilleure nouvelle du monde. Et nous devons avoir de l'engouement pour témoigner de cette bonne nouvelle partout où nous allons, partout où nous sommes. Amen. C'est la quatrième raison que je vous ajoute aujourd'hui. Parce que l'évangile est une bonne nouvelle. Nous sommes porteurs d'une bonne nouvelle. Vous le savez tous que quand on a une bonne nouvelle, on ne sait pas la garder pour soi-même. Je donne l'exemple d'une sœur à qui on vient de déclarer, en tout cas, dans 2 semaines, nous arrivons chez vous avec les chèvres et nous allons te marier. Est-ce qu'elle garde cette nouvelle pour elle-même? Elle la garde pour elle-même? Non, pas pour elle-même. Elle l'annonce à tous ses amis, elle l'annonce à toute sa famille, parce que c'est une bonne nouvelle. Et l'évangile est une bonne nouvelle, et donc nous devons être très engoué, très zélé pour l'annoncer. Parce que l'évangile est la nouvelle qui rend possible le vrai amour dans ce monde. C'est l'évangile qui rend possible le vrai amour dans ce monde. Quatrième raison, l'évangile est une bonne nouvelle. Nous sommes porteurs d'une bonne nouvelle. Et le thème de ce jour, c'est que nous devons témoigner de cette bonne nouvelle partout et en toutes circonstances. Le texte que j'ai lu avant que nous puissions prier, vous le connaissez, n'est-ce pas? Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous vivons dans un monde où tout le monde a une opinion sur tout. Vous savez, avec les médias sociaux maintenant, tout le monde peut parler, tout le monde peut s'exprimer devant une audience. Ça peut être vos amis, ça peut être les personnes qui vous suivent sur Instagram, ça peut être les personnes qui vous suivent sur TikTok, ainsi de suite. Et donc, aujourd'hui, tout le monde a une opinion sur tout, tout le monde peut se faire entendre. Et des fois, on limite les mots témoigner juste à donner des petits messages sur votre Facebook. C'est bien, toutes ces choses sont bien, mais il faut qu'on aille un peu plus en profondeur pour comprendre les ramifications de ce que c'est que témoigner. Et il y a d'autres qui prennent les témoignages chrétiens pour des discussions futiles. Vous savez, des fois, quand les témoins de Jéhovah arrivent devant la maison de quelqu'un, on ne les accueille pas trop, n'est-ce pas? Parce que des fois, ils nous mènent à discuter des choses qui sont vraiment secondaires. Est-ce que l'habit de Jésus avait des fils dedans? Est-ce qu'il y a ou bien il y a tout ngou ou tout yéni haïkupita ka moïsi? Tu vois ce genre de discussions, des choses très secondaires. Il y a des personnes ici qui commencent à s'imaginer, est-ce qu'il avait des yeux bleus ou bruns? Des discussions futiles. Mais témoigner a un sens un peu plus profond. Dans les livres ici d'actes que nous venons de lire, les mots témoins, tels que nous l'avons lu ici, vous serez mes témoins. Je sais que Dieu vous a dit beaucoup de choses, mais on va aller un peu dans les langages originaux. Le Nouveau Testament, pour ceux qui ne le savent pas, a été écrit en grec. OK? Cela a été écrit en grec. Et donc, tout ce que nous avons, ce sont des traductions du grec vers le français, l'anglais, le swahili, le kinande, le lingala, le kiluba, ainsi de suite. Mais le mot original pour témoin dans la Bible, dans le grec, c'est un mot qui se prononce martus. Martus, OK? Martus, M-A-R-T-U-S. Et c'est de là même que c'est le mot original d'où on tire le mot martyr. C'est de là qu'on tire le mot martyr, OK? Et donc, quand les disciples du Christ ont réussi ce commandement-là de Christ, cette déclaration de Christ qui dit que vous serez mes témoins, pour eux, vraiment, c'était une signification un peu plus profonde. Parce que ça allait au-delà seulement de proclamer la bonne nouvelle de sa vie, de sa résurrection, mais ça disait aussi qu'ils devaient être même prêts à donner toute leur vie pour cette nouvelle-là. Martus, témoin, OK? Est-ce que cela veut dire que nous aussi, nous devons donner notre vie complètement, que nous devons être des martyrs pour l'Évangile? Pas nécessairement, mais cela doit être une possibilité. C'est une possibilité parce qu'il y en a à travers le monde qui font tout à cause de leur témoignage, ils perdent leur vie. Martus. Témoigner de Christ a plusieurs ramifications. Ça ne se limite pas seulement qu'au message. Quand on comprend la profondeur de ces mots-là, on comprend que Dieu nous appelle à aller au-delà seulement, au-delà même de proclamer, mais aussi à être des expressions vivantes du message que nous sommes en train de porter. Parce que témoigner et évangéliser sont des choses différentes. Tu n'y es pas allé? Témoigner et évangéliser sont des choses différentes. C'est vrai qu'elles marchent ensemble dans le cadre des chrétiens, mais elles sont des choses différentes. Et je vais vous expliquer pourquoi. On dit que toute évangélisation est un témoignage, mais tout témoignage n'est pas nécessairement évangélisation. J'ai dit un bon témoin peut être un bon évangéliste, mais tout témoin n'est pas évangéliste. Un bon témoin peut être un bon évangéliste, mais tout témoin n'est pas évangéliste. Parce que l'évangélisation, c'est vrai, c'est aussi une manière spéciale de témoigner. Et qu'est-ce que ça signifie réellement témoigner? Qu'est-ce que ses disciples essayaient de montrer au monde autour d'eux? Alors, on sait que les royaumes auxquels nous appartenons, les royaumes de Dieu, si on doit les situer géographiquement, est-ce qu'on peut les retrouver quelque part? Non, n'est-ce pas? On ne peut pas les situer quelque part. C'est un royaume qui est invisible. Mais à travers leurs témoignages, à travers les sacrifices que ces disciples, ces premiers disciples de Jésus ont accomplis en mourant pour ces messages-là, ils ont rendu visibles les royaumes invisibles de Dieu. Témoigner de quelque chose, c'est amener cette chose-là qui était invisible à être perceptible à tout le monde. Vous êtes en train de comprendre ça? À être perceptible à tout le monde. Et les premiers disciples de Jésus avaient compris que l'une des manières d'attirer l'attention du monde vers la vérité du Christ, de rendre perceptible les royaumes invisibles de Dieu, était de mourir pour cette vérité. Pour eux, ils étaient vraiment prêts à aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout. Nous devons nécessairement être de ceux-là qui meurent. Mais nous devons comprendre que témoigner, ça englobe toute notre vie. Il n'y a pas d'exception. C'est pour ça que Paul pouvait déclarer que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui fait quoi? Qui vit en moi. Parce que je témoigne de la personne qui vit en moi. J'ai vu sa vie. J'ai vu comme cette personne a vécu. Je marche comme elle a marché. Je parle comme elle a parlé. J'agis comme elle a agi. Amen. C'est ça témoigner. Et donc témoigner rend visible les royaumes invisibles de Dieu. Et comme je l'ai dit, ce royaume n'a pas de frontières. Mais il n'y a aussi aucun domaine de notre vie qui est exclu du témoignage. C'est pourquoi le thème de ce jour, hein, le thème de ce jour, c'est témoigner partout et en toutes circonstances. Parce qu'il n'y a aucun domaine de notre vie qui est exclu de cette mission de faire quoi? De témoigner de la vie, de la mort et de la résurrection de Christ. Amen. On est ensemble jusque-là. Si vous avez good, continuons. Et vous savez qu'à la création, l'œuvre ici, la tâche de témoigner, était la responsabilité de tous les chrétiens, de tous les hommes, de toute l'humanité. Parce que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Ça veut dire que l'homme et la femme devaient manifester devant toute la création à quoi Dieu ressemble, les caractères de Dieu, la sainteté de Dieu. C'est ça le témoignage que ces deux premières personnes devraient porter. Et donc témoigner était vraiment la responsabilité de toute l'humanité. Parce que Dieu nous a créés à son image. Nous créer à son image, ça veut dire que c'est à nous qu'est la responsabilité de manifester la puissance, la sainteté de Dieu, le caractère de Dieu à toute la création. C'était une responsabilité qui nous est incombée. Mais à cause du péché, l'image de Dieu en nous a fait quoi? A été obscurée. Elle a été obscurée. C'est pour ça qu'il fallait que Dieu puisse faire quoi? Puisse envoyer Christ et qu'il puisse mourir à la croix pour nous ramener encore vers lui. Et faire quoi? Et reconstruire cette image pour que nous puissions la manifester partout et en toutes circonstances. Partout et en toutes circonstances. Et donc témoigner va au-delà d'évangéliser. Témoigner, c'est vraiment toute la vie. Il y a même quelqu'un qui a dit que la vérité biblique n'est pas seulement la vérité sur le salut de l'homme, mais c'est la vérité sur toute chose. Sur toute chose. La vérité totale, c'est comme ça qu'il l'a appelé. La vérité totale. La vérité totale. Et là, je me dis qu'il y a des personnes ici qui n'aiment pas évangéliser, qui commencent déjà à se sentir un peu soulagées. Ils disent, ah, donc je peux seulement témoigner et je ne vais pas évangéliser. Il ne faut pas être trop soulagé, très vite soulagé, parce que même si nous ne sommes pas tous appelés à être des évangélistes, la Bible dit que nous devons tous croire dans notre cœur et confesser que Christ est Seigneur pour faire partie de la famille des enfants de Dieu. Ça, c'est sine qua non. Si tu ne l'as jamais fait, tu n'appartiens pas à ce royaume. Croire en ton cœur et proclamer de ta bouche que Christ est Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Ça, c'est une déclaration que nous devons toutes faire pour faire partie de ce royaume. Donc, je viens de faire la différence entre témoigner. J'ai dit que témoigner, c'est rendre visible une réalité qui n'était pas perceptible à beaucoup de gens, n'est-ce pas? La réalité du royaume de Dieu, qui n'a pas de frontières, qu'on ne peut pas limiter géographiquement. Mais quand nous vivons tel que Christ a vécu, quand nous marchons tel que Christ a marché, quand nous manifestons les valeurs que nous apprenons de Christ, nous rendons visible ce royaume-là. Okay? Mais je dis aussi qu'une partie spéciale du témoignage, c'est l'évangélisation. L'évangélisation. Et l'évangélisation, il faut qu'on soit vraiment très clair que l'évangélisation n'est pas seulement vivre sa vie comme un exemple. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? De vivre sa vie comme un exemple. Il faut qu'on soit un témoignage vivant, je viens de le dire encore une fois. Mais l'évangélisation n'est pas seulement vivre sa vie comme un exemple. L'évangélisation n'est pas seulement inviter ses amis à l'église. Non. Toutes ces choses-là peuvent être des voies, hein, n'est-ce pas, pour témoigner. Mais ce n'est pas l'évangélisation. Nous devons vraiment faire cette distinction-là entre témoigner et évangéliser. L'évangélisation n'est pas seulement d'avoir des amis non chrétiens. Non. L'évangélisation ne se limite pas à se faire des amis qui ne sont pas de l'Église, non. L'évangélisation, ce n'est pas donner son témoignage personnel. Ce sont des bonnes choses, ce sont toutes des bonnes choses, ce sont toutes des bonnes bases. Mais elles doivent nous mener à faire quoi? À parler de la vie, de la mort et de la résurrection de Christ. C'est ça l'évangile. C'est ça la bonne nouvelle de l'évangile. Que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Et il est mort pour les pécheurs, pour nous ramener vers lui-même. Amen. C'est ça l'évangélisation. Et donc toutes ces choses qu'on peut faire, ces bonnes actions, ne sont pas la fin. Mais elles sont comme des signes qui nous mènent vers cette finalité où on doit faire quoi? Évangéliser. Témoigner et évangéliser. Alors je vais vous donner quelques éléments sur comment témoigner de Christ partout et en tout temps. Comment est-ce qu'on peut faire pour témoigner de Christ partout et en tout temps? Parce que la réalité est que la plupart d'entre nous ne seront pas peut-être des évangélistes en plein temps ou bien des révérends pasteurs, n'est-ce pas? 80% de l'Église, telle qu'on la connaît, des membres de l'Église, 70 à 80%, ce ne sont pas des pasteurs ordonnés ni des évangélistes, n'est-ce pas? Ce sont des membres simples, des laïcs. Et c'est ça la réalité, c'est que la vraie réalité est que la plupart d'entre vous auront des carrières dans beaucoup d'autres domaines. Mais le commandement aujourd'hui, c'est que nous puissions faire quoi? Témoigner partout où nous sommes et en toutes circonstances. Partout où nous sommes et en toutes circonstances. Et donc, si, que tu sois un étudiant, que tu sois un homme d'affaires, que tu sois un élève, que tu sois, je ne sais pas, qu'est-ce que tu fais dans ta vie, tu es appelé à faire quoi? À témoigner partout où tu es et en toutes circonstances. Alors, comment est-ce qu'on peut le faire? Comment est-ce qu'on peut le faire? La première chose que nous devons noter, c'est que nous devons développer une vision biblique du monde. Nous devons développer une vision biblique du monde. Est-ce qu'on peut répéter ça ensemble? Nous devons développer une vision biblique du monde. Nous devons développer une vision biblique du monde. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que la Bible, la parole de Dieu, doit être ce cadre au travers lequel nous interprétons toute la réalité. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre ça. La Bible doit être ce cadre au travers lequel nous interprétons toute la réalité. Parce que j'ai dit que la parole de Dieu est la vérité à propos de tout. C'est la vérité totale. Dans la Bible, il y a tout ce qu'il te faut pour être un bon parent. Dans la Bible, il y a tout ce qu'il te faut pour être un bon étudiant. Dans la Bible, il y a tout ce qu'il te faut pour être un bon mari. Dans la Bible, il y a tout ce qu'il te faut pour être une bonne épouse. Dans la Bible, il y a tout ce qu'il te faut pour être un bon manager. Et donc, la Bible doit être ce cadre au travers lequel nous interprétons toute la réalité. Toute la réalité. Ça veut dire que si nous devons faire des affaires, nous, en tant que chrétiens, qu'est-ce que la Bible nous demande de les faire? Comment est-ce que la Bible nous demande de les faire? Si nous devons nous marier, nous, en tant que chrétiens, si nous devons amorcer des relations qui mènent vers le mariage, nous, en tant que chrétiens, qu'est-ce que la Bible dit sur les relations entre un homme, un jeune homme et une femme? La Bible doit être ce cadre au travers lequel nous faisons quoi? Nous percevons toute la réalité. C'est ça ce que je suis en train d'appeler développer une vision biblique du monde. Nous devons développer une vision biblique du monde. Parce que quand nous développons cette vision biblique du monde, nous devenons vraiment une émulation. Hein? Une émulation, c'est vraiment une personnification. Hein? Donc, nous devenons une émulation des valeurs du royaume de Dieu partout où nous sommes. Parce qu'il n'y a pas un seul domaine dans notre vie où Christ ne peut pas régner en maître. Il y a deux passages de la Bible que j'aimerais qu'on lise rapidement pour appuyer ces points. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, il dit « Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » C'est ça, développer quoi? Une vision biblique du monde. Ça veut dire que si tu es travailleur quelque part, tu dois te demander qu'est-ce que la Bible dit au sujet des travailleurs, des serviteurs. Si tu es médecin, comment est-ce que je peux être un médecin ici, mais qui apporte des valeurs du royaume de Dieu? Quelle est la différence entre un charpentier qui n'est pas chrétien et un charpentier qui est chrétien? Parce que toutes ces choses sont moralement neutres. OK? Ces choses sont moralement neutres. Mais c'est la façon dont on les fait, la valeur, l'éthique qu'on apporte à ces choses-là qui fait toute la différence. Il faut que quand tu as peut-être des emplois ou tu es manager des personnes quelque part, qu'ils sentent réellement qu'il y a des valeurs chrétiennes dans la façon dont tu gères ces personnes-là, dans la façon dont tu gères les ressources de n'importe quelle entreprise que tu as. C'est ça même, développer quoi? Une vision biblique du monde. Si on veut être des témoins efficaces partout et en toutes circonstances, nous devons faire quoi? Développer une vision biblique du monde. La Bible doit être ce cadre au travers lequel nous regardons toute la réalité, nous percevons toute la réalité. Percevons toute la réalité. Parce que le danger qu'il y a maintenant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui séparent les sacrés et les séculiers. On pense que parce que nous ne sommes pas des pasteurs, nous ne sommes pas des évangélistes attitrés, alors tout ce que nous faisons là-bas est profane, tout ce que nous faisons là-bas est séculier. N'est-ce pas? Il y a cette séparation entre ce qui est sacré et ce qui est séculier. Et le deuxième point que je vais nous donner pour que nous puissions être des bons témoins partout et en toutes circonstances, c'est que nous avons la responsabilité de faire quoi? De sanctifier les séculiers. Vous pouvez noter ça. Nous avons la responsabilité de sanctifier les séculiers. Nous avons la responsabilité de sanctifier les séculiers. La Bible dit que la terre et tout ce qu'elle renferme appartiennent à qui? À l'Éternel. La terre et tout ce qu'elle renferme appartiennent à l'Éternel. Et donc, sanctifier les séculiers, ça veut dire que toutes ces choses que le diable s'est appropriées, parce que Shetani ni muongo na ni mwizi, c'est un voleur. Muongo na ni mwizi, n'est-ce pas? Toutes ces choses que le diable s'est appropriées, nous devons démontrer que la personne qui les a créées, la personne à qui elles appartiennent, c'est notre Dieu. C'est notre Dieu. Parce que réellement, si nous voulons sanctifier les séculiers, nous devons aussi comprendre que le péché n'est pas seulement individuel, mais le péché a aussi des ramifications sur la façon dont nos institutions fonctionnent. Les organisations qu'il y a autour de nous sont affectées par le mal. Et il y a un verset dans Colossiens qui dit que Christ est venu pour réconcilier tout avec lui-même. Tout. Pas seulement moi. Pas seulement toi. On nous dit dans Colossiens chapitre 1, verset 20, on dit, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et donc, en Christ, toutes choses doivent être réconciliées avec Dieu. Et donc, le travail que tu vas faire là-bas, les études auxquelles tes parents t'ont envoyé si tu es un étudiant, tout ce que tu fais dans ta vie, tu es là pour les faire quoi? Pour les sanctifier. Parce que quand tu apportes des valeurs chrétiennes, quand tu apportes la vie de Christ dans ces choses-là, tu es en train de faire quoi? De les sanctifier. On sait voir la différence entre deux cultures. La culture d'une entreprise qui est menée par des païens et la culture d'une entreprise qui est menée par des personnes qui croient réellement en Christ et qui manifestent les valeurs du royaume. On sait bien voir cette différence-là. Parce que dans certaines entreprises, pour avoir un emploi, il ne faut pas passer par des corruptions. Chez les femmes, c'est un peu plus compliqué. Elles doivent donner leur corps, ainsi de suite. Toi, quand tu vas sanctifier les séculiers, quand tu vas sanctifier les institutions, quand tu vas stopper les effets institutionnels du péché, tu dois faire quoi? Tu dois apporter des valeurs chrétiennes où tu travailles pour la justice et l'équité partout où tu te retrouves. La justice et l'équité partout où tu te retrouves. Parce que la Bible nous dit aussi que les trônes, sur les pieds du trône de Dieu, sont la justice et l'équité. La justice et l'équité. Notre Dieu, c'est un Dieu qui est juste. C'est un Dieu qui est droit. Parce que quand tu ne traites pas les gens avec droiture, tu n'es pas une manifestation de quoi? Tu n'es pas un témoin efficace de Christ là où tu es. Tu n'es pas un témoin de Christ. Et vous savez qu'il y a une différence entre une personne qui va venir vous prêcher l'évangile, vous donne vraiment un très grand message, Munapiga mikono, et puis vous voyez cette même personne-là, elle n'est pas en train de vivre ce qu'elle dit. Son message du coup perd du poids. Son message perd complètement beaucoup de poids. Mais le message qui a plus d'impact et plus de poids, c'est quand le porteur du message est quoi? Est une expression vivante de ces mêmes messages-là. Le porteur du message est lui-même une expression vivante de son message. C'est ça, être efficace, un témoin efficace partout et en toutes circonstances. Et donc, nous sommes appelés à faire quoi? À sanctifier les séculiers. Il n'y a pas de séparation entre ce qui est sacré et ce qui est séculier. Il n'y a pas un seul domaine dans la vie. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont moralement zambaya, comme la prostitution. Il est à toi de sanctifier tes. OK? On ne peut plus sanctifier ce genre de choses-là. Il est viché à Ribika. Au contraire, ce qu'on doit faire, c'est d'aller prêcher vers ces gens-là pour qu'ils puissent changer et qu'ils reviennent sur la bonne voie. Et qu'ils sachent pourquoi Dieu leur a donné un corps. Ce n'est pas pour les vendre, n'est-ce pas? Mais c'est pour qu'ils soient un temple. Il y a des choses qui sont déjà entre les mains du diable, c'est très compliqué de les changer. Mais il y a des choses qui sont moralement neutres. Vous êtes en train de me comprendre? Ça peut être la façon dont nous traitons les personnes autour de nous, ça peut être la façon dont nous vivons en famille. Ces choses-là, nous devons les sanctifier à travers la façon dont nous vivons les valeurs du royaume de Dieu partout où nous sommes. Le temps est en train de filer, mais je voulais dire que comment est-ce qu'on peut sanctifier les séculiers? La première chose, c'est de faire quoi? C'est de démontrer qu'il y a une meilleure voie. Démontrer qu'il y a une meilleure voie. Le monde a beaucoup de philosophies, beaucoup de conseils, beaucoup de, hein, d'endroits où on apprend des choses. Mais nous, nous sommes là pour démontrer que la voie de Dieu, la voie de la Bible est la meilleure. Si les gens peuvent vivre en paix, dans l'harmonie, dans l'amour, sans beaucoup de conflits, c'est parce que nous nous soumettons à quoi? À la parole de Dieu. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, je me rappelle que j'étais en conversation avec une dame qui me disait, mais toi, comment est-ce que mon famille, nous avons ta voyou, tout sérieux, ainsi de suite. J'ai dit, c'est parce que nous nous soumettons à la parole de Dieu. Vous comprenez? Nous démontrons qu'il y a une meilleure voie. Nous démontrons qu'il y a une meilleure voie. Et cette voie-là, c'est une voie qui amène vers la paix, qui amène vers l'harmonie. La deuxième chose, c'est engager le monde autour de nous avec une attitude de serviteur. Partout où tu iras, il faut avoir une attitude quoi? Des serviteurs. Je me rappelle qu'on travaillait avec Papa Steven quelque part et on nous appelait souvent Pasta, n'est-ce pas, Papa Steven? On travaillait dans une entreprise qui n'était même pas chrétien. Notre manager n'était même pas chrétien, il était musulman. Mais on nous appelait toujours Pasta, Pasta. On n'avait jamais prêché là-bas. Hakuna siku nye tushati altar mwa ile bureau, tunasema bon, hii ni wakati ya kusema neno la Mungu. Rien à faire. Notre attitude, la façon dont nous étions, a fait que ces gens ont dit, il y a quelque chose de différent à propos de ces deux personnes. Et ils nous appelaient comment? Pasta. Vous comprenez? Tellement que moi, quand j'ai démissionné, j'ai dit, bon, je démissionne, je vais voyager, je vais aller en dehors du pays. Il m'a dit, ah, ok, tu pars. On attaque à quoi, pasteur, ça en plein temps. Lui-même dit ça, je ne lui ai rien dit, mais lui-même me dit ça. Tu comprends? Je n'ai jamais prêché à cette personne-là. Mais ton attitude, quand tu t'engages avec une attitude de serviteur, tu es en train de faire quoi? Tu témoignes partout et en toutes circonstances. J'ai déjà parlé de la justice et l'équité. Traite les gens avec droiture. Si tu traites les gens justement, tu fais vraiment un très grand témoignage. Parce qu'on nous dit que les fondements du trône de notre Dieu sont la justice et l'équité. La justice et l'équité. Dernier point. Je viens de dire que tout témoin n'est pas nécessairement un évangéliste. Mais un bon témoin peut faire un bon évangéliste. Ça va? Tout témoin n'est pas nécessairement un évangéliste, mais un bon témoin peut faire un bon évangéliste. Et ici, je vais conclure en disant quoi? Que Dieu, quand Christ est ressuscité, quand il nous a envoyé le Saint-Esprit, il nous a donné plusieurs dons, des dons différents, n'est-ce pas? Certains ont eu ces dons-là d'évangélisation, d'autres sont des docteurs, d'autres sont des enseignants, d'autres sont des pasteurs. Et donc, on a différents dons qui sont représentés ici. À part le don juin, don, gift, ok? Différents dons. Et certains d'entre nous ne sont peut-être pas à l'aise qu'ils les partagent. Ah, il y a effectivement un bilabato, un jour au pire. Ne t'inquiète pas, si tu as cru, si tu as déjà professé de ta bouche, écrit dans ton cœur que Christ est Seigneur, il y a quelque chose que tu peux aussi faire pour l'avancement de l'Évangile. Il y a quelque chose que tu peux faire. Et c'est le dernier point que je suis en train de dire, que bien que nous ne sommes pas tous appelés à être des évangélistes en plein temps, il y a des choses dont nous devons nous rassurer. Il y a des choses dont nous devons nous rassurer. La première chose dont nous devons nous rassurer, c'est que l'évangélisation est effective dans notre église, dans notre communauté. Ça, c'est très important. Parce que le plus grand sacrifice que nous pouvons faire à Dieu, ce qui concerne Dieu, ce qui est sur le cœur de Dieu, c'est de ramener les perdus, les captifs vers lui-même. Et donc, quand nous soutenons, quand nous nous rassurons que l'évangélisation est effective dans notre église, nous faisons déjà un grand travail. Et comment on se rassure de cela? Nous sommes dans les mois de la mission, on vous parle de toutes les missions que l'Église est en train de faire partout dans ces pays. Une manière de nous rassurer que cette mission est en train d'être bien faite, c'est de la soutenir. La soutenir, prier pour la mission, soutenir la mission financièrement, donner de notre temps pour que l'œuvre de la mission puisse faire quoi? Puisse aller de l'avant. C'est comme ça qu'on se rassure que l'œuvre de l'évangélisation est effective. Soutenir les pasteurs qui se sont donnés. Vous savez que ces gens ont tout abandonné pour se consacrer à quoi? À l'évangile. Ils ont tout abandonné, tout. Ils pouvaient être des businessmen, ils pouvaient être des enseignants, mais ils ont reçu l'appel de Dieu dans leur vie et ils ont dit, cet appel est trop grand, je dois faire quoi? Je dois y répondre. Et donc, nous devons être de ceux-là qui soutiennent cette œuvre-là, pour la rendre effective, à travers nos ressources, à travers notre temps, ainsi de suite. On est en train de comprendre ça. La deuxième chose, quand nous ne sommes pas des évangélistes en plein temps, nous devons nous rassurer que la parole de Christ est prêchée. Nous devons nous rassurer que la parole de Christ est prêchée. Et donc, ça revient encore à ces serviteurs-là. Ça doit nous déranger de ne pas voir qu'il y a encore des personnes qui n'ont pas encore entendu cette bonne nouvelle. Ça doit vraiment nous toucher. Parce que tant que ça ne nous touche pas, nous ne serons pas des témoins efficaces. Nous devons avoir cette compassion pour les perdus. Ça doit nous déranger de savoir qu'il y a encore des coins dans ce monde, des coins dans ce pays où les gens n'ont jamais entendu même une seule parole de la Bible. Ça doit nous déranger. Et donc nous devons nous rassurer quoi? Que la parole de Christ est prêchée partout. Nous devons nous rassurer que la parole de Christ est prêchée. Si Dieu t'a mis dans un poste de responsabilité, toi en tant que chrétien, il t'a donné des ressources, il t'a donné des recherches, il t'a donné des capacités. C'est pour que tu utilises ces capacités-là pour faire quoi? Pour soutenir l'expansion de la parole de Christ partout. 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 C'est notre devoir. C'est notre devoir. Nous devons enfin nous rassurer que l'œuvre de la mission continue. Parce que tant que Christ n'est pas encore revenu, l'œuvre de la mission fait quoi? Elle continue. Nous devons nous rassurer que l'œuvre de la mission continue. Et nous avons donc tous une part de responsabilité dans la mission de l'Église. Nous avons tous une part de responsabilité dans la mission de l'Église. Alors je vais me résumer et vous rappeler ces choses-là. Comment est-ce qu'on témoigne de Christ partout et en tout temps? La première chose, c'est que nous devons développer une vision biblique du monde. La deuxième chose que j'ai dite, c'est que notre responsabilité partout où nous sommes, c'est de sanctifier les séculiers. Il n'y a pas un seul domaine de ta vie où Christ ne doit pas régner en maître. Pas un seul. Dans tes études, dans tes affaires, il faut vaoner uyunimu Christ. Uyunimu Christ. Et la troisième chose, c'est que nous devons nous assurer de l'expansion de l'Évangile. Nous devons nous assurer que l'œuvre du Christ, la parole du Christ est prêchée et que la mission continue. Parce que tant que Christ n'est pas encore revenu, la mission continue. Il y a des personnes qui n'ont pas encore écouté la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est notre responsabilité à tous. Amen. C'est notre responsabilité à tous. Nous allons nous lever et nous allons prier. Nous allons demander à ce que Dieu nous aide. Et justement, je vais vous donner une opportunité de participer à l'œuvre de la mission parce que ce mois-ci, c'est le mois de la mission au sein de notre Église. Et il y a des enveloppes qui ont été données. Je ne sais pas si on les a aussi pour ces services. Mais on a demandé à tous les membres de cette communauté de faire quoi? De donner $1, $1. Hazienia tamega enyona konsoma comme semaine. $1 pour la mission. Et donc, vous allez prendre une enveloppe et vous allez la ramener le dimanche prochain avec combien? $1 minimum. Okasikia mungu na kutia mweye, utia moza mingi kushinda $1. En tout cas, que le Seigneur te bénisse. Amen. Je vous donne cette opportunité de faire quoi? De vous rassurer que l'œuvre de la mission continue. Et donc, il y a des enveloppes. Je pense qu'il y a nos diacres qui les ont là-bas à l'entrée. Les protocoles en a là-bas. Donc, vous allez prendre une enveloppe et vous allez y mettre un minimum de $1. Je viens encore de le dire que Hazienne et Atamega n'y aura consommé comme semaine. Et donc, tu peux sacrifier il y a 2 jours. Nous, on a tiré le $1 pour que mission y ait un délai. Ça va? On a tous compris? Merci beaucoup, on va prier. Dieu notre Père, nous te disons merci pour ce qui tu es. Merci pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir dans notre vie. Merci Seigneur pour ta parole qui est vraie. Une parole Seigneur qui donne la vie Seigneur. Une parole qui transforme le monde. Une parole Seigneur qui rend le vrai amour possible dans ce monde qui est dans les ténèbres, qui est affecté par les péchés. Merci Seigneur parce que tu fais de nous des associés Seigneur dans cette œuvre de rédemption à travers le monde. C'est pourquoi Seigneur nous voulons encore une fois nous soumettre à toi Seigneur afin que tu puisses nous utiliser. Enfin Seigneur que nous soyons réellement des témoins partout et en tout temps Seigneur. Nous voulons être Seigneur des expressions vivantes de ta vie partout où nous irons Seigneur. Nous voulons être ces martus Seigneur. Ces témoins Seigneur qui ne se limitent pas seulement qu'à parler et à discuter mais qui vivent réellement les messages qu'ils sont en train, Seigneur, de proclamer. Merci, Seigneur, parce que tu ne nous les as pas laissés nous-mêmes, Seigneur. Tu as promis dans ta parole qu'il y a une puissance, le Saint-Esprit qui est sur nous et qui va nous rendre capables, Seigneur, de vivre réellement ces valeurs partout et en toutes circonstances. C'est pourquoi, Seigneur, nous prions que ton Esprit, Seigneur, puisse encore une fois nous remplir, qu'il puisse remplir nos cœurs, que nous puissions, Seigneur, être soumis, Seigneur, à la voix de cet Esprit-là. Enfin, Père éternel, que nous puissions te représenter efficacement partout où tu nous envoies. Merci, ô Dieu de gloire, parce que tu vas le faire. Et c'est dans les noms précieux de Jésus que nous te prions. Amen.
Amen, amen, amen.